La Bible dit de prier pour tous les saints. Et moi, je n'ai pas trouvé d'astérix dans ma Bible qui signale pour les saints malades. Donc, ça veut dire qu'on a le droit de prier aussi pour les gens en bonne santé. Prier afin qu'ils demeurent dans la grâce de Dieu, en bonne santé, etc. Et c'est important parce que Dieu ne fait pas une distinction entre ceux qui seraient malades et ceux qui seraient en bonne santé. Dieu veut utiliser autant les uns que les autres. Dieu ne fait pas de distinction entre les gens en fonction de catégories. Mais le problème, c'est que nous, on aime bien mettre des catégories. Parce que les catégories, quelque part, ça rassure. Surtout quand on pense qu'on est dans la bonne catégorie. Non ? C'est pas rassurant de savoir qu'on est du bon côté ? Bien sûr. Et je vous souhaite d'être du bon côté. C'est même chouette d'être du bon côté. Mais il y a un petit piège derrière ça que j'aimerais dénoncer qui a parcouru l'histoire de l'Église. Un piège dans lequel souvent on peut tomber, et même moi, il m'est arrivé de tomber dedans. Et ce piège vient d'une lecture, je dirais, simple de la Bible. Et c'est vrai que la Bible parle de deux côtés. D'un côté, vous avez la vie éternelle, et de l'autre côté, vous avez la mort éternelle. D'un côté, vous avez la lumière, et de l'autre, vous avez les ténèbres. D'un côté, vous avez la justice, et de l'autre, l'injustice, le péché. D'un côté, vous avez l'espérance, et de l'autre, le désespoir. Et on a l'impression que la Bible classe comme ça. D'un côté, vous avez le peuple de Dieu et de l'autre côté, les bons, les méchants. Et je suis bien content d'être de ce côté-là. Et vous voyez tout de suite le piège que ça peut faire. Ceux-là, là-bas, hein, qui sont du mauvais côté, qui sont pas du même côté que moi. Et effectivement, la Bible peut nous inviter à avoir cette lecture un peu dualiste, c'est-à-dire séparer simplement les choses en deux. Du monde. Et on a l'impression que la Bible présente les choses comme ça. Dieu d'un côté, Satan de l'autre. Et on oublie une chose. C'est que si je suis dans un monde dualiste, si je vois le monde comme ça, je vois les choses en noir et blanc. Faites attention, j'ai changé de côté là. Je vois les choses en blanc et noir. Je ne vois plus les couleurs. Et pourtant, Dieu a créé un monde en couleurs. Alors, est-ce que la Bible est compatible avec un monde en couleurs? Est-ce que, effectivement, je crois qu'il y a deux côtés. Ça, c'est pas un problème. Mais est-ce que je suis uniquement dans une vision noir et blanc? Vous savez, quand vous commencez à voir les choses uniquement en gris, la nuit, tous les chats sont... Ah, oh, vous savez ça? Pourtant, c'est pas un verset biblique. Ah, oh, mince. Il y a ceux qui sont spirituels, qui connaissent que les versets bibliques et les autres. Et c'est bien de connaître peut-être aussi d'autres choses pour pouvoir approcher notre génération. Et effectivement, quand je vois que les choses en gris, c'est que je suis déjà tombé dans les pièges de ce dualisme. Parce que je vais considérer où je suis bon, où je suis mauvais, où il y a des trucs bien, puis des trucs pas bien, et je vais culpabiliser pour les choses pas bien, ou accuser, quand c'est pas moi qui les commets, pour des choses pas bien. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que je suis du bon côté. Moi, je suis bien. Hein. On voit déjà une petite notion d'orgueil là, poindre. Hein. Ah, moi, j'ai fait le bon choix, j'ai dit oui à Dieu. Hein. Super. Tu sais quoi? Si tu as pu dire oui à Dieu, c'est déjà une grâce de Dieu. Et c'est pas lié à ton mérite. Parce que si Dieu ne se révèle pas, si Dieu ne te donne pas la capacité de dire oui, si Dieu ne t'attire pas à lui, rien ne se passe. Et tu n'es même pas capable de dire oui à Dieu. Je suis même pas capable de dire oui à l'amour de Dieu, tellement cet amour est incompréhensible, fort, et je m'estime non méritant de l'avoir. Je suis incapable de dire oui à Dieu, à la grâce, parce que la grâce, c'est quelque chose qui me dépasse complètement. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour dire oui à la grâce. Et cette grâce ne vient pas parce que j'ai mieux compris ou parce que je mérite, sinon c'est plus de la grâce. C'est simplement le cœur de Dieu qui se répand. Et donc, voyez, ce risque d'entrer dans ce dualisme qui devient presque du manichéisme à la fin, c'est de dire, moi je suis bon, les autres sont mauvais, et puis il y a cette pointe d'orgueil qui vient, et l'orgueil précède la chute. Et Dieu nous appelle à une attitude d'humilité. Et vous savez, qu'est-ce que fait la lumière si la nuit tous les chats sont gris, quand l'aube se lève? On s'aperçoit que ce chat n'est pas gris, mais qu'il est roux. On s'aperçoit que ce chat n'est pas gris, mais qu'il est... comment? Bicolore. J'allais dire bleu, mais vert, c'est pas mal aussi. C'est un chat punk. C'est pas mal. On voit les couleurs apparaître. Est-ce que dans la nuit, les couleurs étaient absentes? Oui et non, c'est compliqué physiquement. Mais on les voit pas, surtout. On ne les perçoit pas. Par contre, qu'est-ce que va faire la lumière? Elle va révéler ces couleurs-là. Question philosophique, est-ce qu'elles existent? Compliqué. Mais elles existent grâce à la lumière. Grâce à la lumière, nous les voyons. Et tout vient de la lumière. Et Dieu est lumière. Et si je peux dire qu'il y a un côté lumineux, c'est parce que c'est Dieu. Mais Dieu, à la création, n'a pas dit le jour c'est bien et la nuit, on va séparer parce que la nuit c'est pas bien. Non, Dieu a dit, je sépare la lumière. Avec l'absence de lumière, je crée le jour, je crée la nuit. Et Dieu dit, et cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et c'était bon. C'était bon les deux, pas juste le jour. Alors ça bouleverse un peu, parce que on était rassurés, bien mal d'un côté. Et oui, on peut spiritualiser la séparation du jour et de la nuit, ténèbres d'un côté, lumière de l'autre, démons d'un côté, anges de l'autre, royaume de Dieu d'un côté, monde de l'autre, esprit d'un côté, chair de l'autre. Mais Dieu avait déclaré au début les choses bonnes. La nuit pour te reposer, en théorie. Le jour pour travailler. La nuit pour reprendre des forces, parce que tu en as besoin. Et pour méditer et intégrer tout ce que tu vas vivre le jour. Et Dieu a même mis un astre la nuit pour te repérer, un astre le jour, pour rythmer les choses. Tout cela était bon, tout cela travaillait ensemble. Et il n'y avait pas la notion de péché et de mal. Le problème du manichéisme, c'est qu'on va dire que le mal est en même temps que le bien dès la création. Et que Satan, en fait, on va le mettre au même niveau que Dieu. Quelqu'un qui est rival de Dieu, opposé à Dieu, et on oublie, dans ce dualisme, que nous sommes dans un monothéisme. On oublie que Satan n'a jamais été le rival de Dieu. Dieu est toujours au-dessus. Dieu est le seul créateur. Satan ne crée rien. Et voyez le problème, c'est que lorsque nous survalorisons l'œuvre du diable, nous négligeons les causes humaines. Je n'ai plus besoin de me repentir. Je n'ai plus besoin de me sanctifier parce que si, après tout, c'est pas de ma faute, mais c'est la faute du diable, je suis responsable de rien. Donc, j'ai pas besoin de salut parce que c'est pas moi qui suis coupable. C'est l'autre. Et ça a été un des premiers réflexes de l'être humain. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Vous connaissez l'effet boomerang dans les couples? Vous dites à quelqu'un, tu n'as pas fait ça. Vous êtes sûr que derrière, vous avez 10 choses que vous n'avez pas faites. En retour. C'est ce que j'appelle l'effet boomerang. Ça ne construit rien. Parce que on oublie notre responsabilité, on la fait reposer sur quelqu'un d'autre. Et quelque part, en faisant ça, je suis en train d'annuler l'œuvre de Jésus à la croix qui me dit clairement que c'est à cause de moi qu'il est crucifié. Oh non, c'est à cause des Romains et puis des Juifs. C'est ton péché qu'il a porté. Celui des Romains aussi. Celui des Juifs aussi. Celui de ton voisin aussi. Mais ce qui compte, c'est que c'est le tien. Parce que si ce n'est pas le tien, tu n'es pas sauvé. Jésus a porté ton péché. Et si on fait Satan égal de Dieu, on est bien sûr en contradiction avec la Bible. Mais moi, je vous invite à regarder dans vos vies personnelles quelle place vous pourriez donner à l'ennemi et quelle place vous donnez à Dieu. Parce que c'est là où on va faire la différence. Et l'un des sujets qui permettent bien voir ça, c'est comment dans ma vie personnelle, mais comment en Église, je considère le problème de la sexualité. Est-ce que, quelque part, la sexualité est vue comme quelque chose d'impur? Est-ce que c'est le problème le plus grand de tous les péchés? Je fais exprès d'exagérer un peu, quoique. Est-ce que la sexualité est surtout présentée comme un danger, une tentation, un obstacle? Ou est-ce qu'elle est présentée comme le cantique des cantiques la présente? Comme quelque chose d'épanouissant, de beau, de voulu par Dieu, et pas seulement pour avoir des enfants. Comment je vois la sexualité? Parce que ça va déterminer de comment je vois mon corps. Est-ce que le corps, c'est le péché? Et l'esprit, c'est forcément bien? Je vous rappelle que le corps a été créé par Dieu. Même s'il a des formes, des courbes non droites. Mon corps a été créé par Dieu. Mon esprit a été créé par Dieu. Et tout comme le jour et la nuit, Dieu à la création dit, ils sont bons les deux. Ils ont été créés initialement par Dieu, bons les deux. Et vous savez, quand je commence à négliger mon corps en disant, moi je suis spirituel, ou bien, comme certains milieux l'ont fait, mais pas chez vous, et ça je vous le garantis, enfin j'espère, on commence à flageller son corps pour se punir de nos péchés. On place le corps à une position inférieure. Peut-être ça, on le fait quand même. On ne se flagelle pas, mais le corps, c'est que le corps, après tout. Et puis, on va placer l'esprit au-dessus. Comment est-ce que Dieu aborde les choses? 1 Corinthiens 6, 13, 14. Ouf, je cite enfin un verset biblique. Le corps est pour le Seigneur. Dieu ressuscitera aussi nos corps. 1 Corinthiens 6. Le corps est pour le Seigneur. Romains 12. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ah, je croyais qu'il fallait l'adorer en esprit, en vérité. Mais le corps fait partie de l'adoration. La matière n'est pas mauvaise. Le monde matériel n'est pas mauvais en soi. Et si le péché a affecté le monde matériel, j'ai une autre nouvelle pour vous. Le péché a aussi affecté votre esprit. Et le mien aussi, vous en faites pas. C'est l'être tout entier qui a été touché par le péché, pas seulement le corps. Mais notre âme a été touchée. Notre esprit a été touché. Notre communion avec Dieu a été affectée par le péché. Et celle-ci aussi a besoin d'être sanctifiée. Et c'est pas parce que c'est en communion avec Dieu que c'est pur. Ça a besoin aussi d'être lavé, cette communion avec Dieu, pour qu'elle devienne de plus en plus saine, de plus en plus belle. Alors, j'avais une image, celle d'une maison. Et dans la maison, il y a des fondations, il y a des murs, il y a des pièces à vivre, il y a un toit, un grenier, etc. Et vous savez, des fois, on a tendance à vivre en tant que chrétien, dans le toit. Je dis même pas sous le toit, parce que sous le toit, il y a des combles aménagés et tout ça. Il y a un chouette grenier. Mais dans le toit, au milieu des tuiles. Parce que je suis tellement spirituel que je veux être au plus haut. Et on va négliger les murs, on va négliger la maison, on va négliger tout cela. Dieu nous invite à habiter toute la maison. Vous êtes d'accord? C'est plus simple d'habiter dans les pièces à vivre quand même. La Bible compare souvent l'être humain à une maison. Déjà, dès que je parle maison, on pense à la maison bâtie sur le sable et celle bâtie sur le roc. Parlant de la façon dont je construis ma vie. Le Saint-Esprit vient habiter en moi. La notion d'habitation renvoie à une notion de demeure, de maison. Jésus frappe à la porte de mon cœur. Là aussi, il y a une maison. Et en fait, dans la maison, il y a les fondations. Les fondations, c'est ce qu'on vient de dire sur le corps, l'aspect matériel, sur quoi je vais. Voilà, la matière. Sans fondation, la maison est dans le vide. Il n'y a pas de matière pour la tenir, ça ne marche pas. Mais on peut aussi interpréter, dire, ben, les fondations, ça peut être mon expérience chrétienne. Depuis le temps que je suis converti, les fondations, je les ai. La vraie fondation, ce n'est pas depuis le temps que tu es converti. La vraie fondation, c'est Jésus. Quel que soit le temps de ta conversion. La vraie fondation, ce n'est pas ton expérience avec Dieu, même si elle est importante, même si cette expérience t'a permis de prendre de plus en plus confiance en Dieu, d'expérimenter son amour et d'apprécier de plus en plus qui il est, et de voir sa fidélité. Et ça, c'est non négligeable, cette expérience. Mais ne confondez pas l'expérience et la maturité. Ne confondons pas l'expérience et la fondation. Ne confondons pas l'expérience et mon point d'appui chrétien. Parce que certes, mon expérience va m'être utile pour dire « Dieu a été fidèle jusque-là, il le sera encore. » Mais ma foi ne repose pas sur mon expérience. Ma foi repose sur ce que Dieu est capable de faire. Que j'ai de l'expérience ou pas. Et c'est cette foi-là, cette maison qui s'appuie sur Dieu, dont les fondations, c'est Dieu lui-même. C'est cela que j'ai envie de rechercher chaque jour pour éviter cet orgueil de dire « Ben moi j'y arrive, j'ai la foi, je sais ce que Dieu est capable de faire et ça me suffit. » Non, ce n'est pas suffisant. Tu as besoin de Dieu lui-même. Ça, c'est les fondations. Et puis ensuite, on va élever des murs. Et les murs, c'est ce que les gens voient de l'extérieur. Bonne nouvelle, vous n'êtes pas appelés à être des chrétiens de façade. Hein? J'ai un beau mur, il est bien crépi, il a une belle couleur, terre battue, c'est génial. Vous n'êtes pas des chrétiens de façade. Ce qui est important, c'est ce qui se vit dans la maison. Mais votre témoignage est le témoignage de ce qui se vit dedans et non pas en façade. Et dans le dualisme, on peut vite tomber sur l'aspect façade. Je parais bien et je vais soigner mon image parce que je crois que mon témoignage passe par mon image. C'est en partie vrai. Mais la vraie image, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Dieu ne veut pas un déguisement de chrétien. Il désire quelqu'un qui incarne Jésus. Ça se passe à l'intérieur, dans le caractère. Et ce qui est intéressant dans la maison, c'est qu'il y a des fenêtres quand même. Parce qu'une maison sans fenêtres, c'est pas très lumineux dedans. Et on peut vite voir le monde en noir et blanc. Et oublier que Dieu a tout créé en couleur. Et Dieu nous appelle vraiment à cette ouverture sur l'extérieur. Cette ouverture sur sa lumière. Mais cette ouverture aussi, par les fenêtres, cette ouverture sur le monde. Souvent, on peut opposer la foi et les œuvres. Et souvent, on l'a fait dans l'histoire de l'Église. Toujours ce dualisme qui vient comme faire bizarre, relater l'Évangile. Mais la foi ne s'oppose pas aux œuvres. La foi accompagne les œuvres et les œuvres accompagnent la foi. Ça va ensemble. Montre-moi par tes œuvres la dimension de ta foi. Et nous avons besoin de pratiquer, la justice, pas seulement pour nous-mêmes, parce que je suis justifié, mais amener la justice dans le monde à travers des œuvres sociales. Vous êtes la lumière du monde. Et les fenêtres, non seulement permettent à la lumière d'entrer, mais quand il fait nuit dehors et que vous mettez la lumière dans votre maison, et que vous laissez les fenêtres, j'allais dire ouvertes, mais sans volets, Cette lumière permet aux autres de voir votre maison, de voir où elle est. Et on ne peut pas opposer foi et œuvre, parce que dans la nuit, votre façade, on ne la voit pas. On voit que la lumière qui éclaire à l'intérieur. Et mon cœur, c'est que nous soyons de ce genre de chrétiens, qui, quelle que soit la façade, de toute façon, mon corps dépérit, je le sais, mais l'être intérieur se renouvelle. Que les gens puissent voir cette force qui renouvelle mon être intérieur. Et puis, il est très important dans la maison, il y a des pièces à vivre. Je ne suis pas censé vivre toujours sur le toit, entre deux tuiles, en étant hyper spirituel. Je suis censé vivre à l'intérieur de toutes les pièces de la maison. Les pièces à vivre, ça parle de mon quotidien, de ma famille, de mon travail, de mes engagements. C'est le lieu où on se retrouve en famille, dans la cuisine ou dans le salon. J'ai un bureau dans lequel travailler. J'ai peut-être un endroit particulier dans lequel j'aime bien être pour méditer la parole de Dieu et prier. Ça parle de tout cela, travail, famille, engagement. J'ai une pièce pour dormir. J'ai une pièce pour satisfaire des besoins naturels, comme traduirait Colombe. J'ai une pièce pour me laver. Il y a une cave, un grenier. Je parle d'une maison idéale. Est-ce qu'il y a des pièces qui ne sont pas ouvertes? Vous savez, cette pièce que vous fermez à clé, celle du bazar, exactement. Celle que vous n'allez jamais montrer aux invités. Celle ou celle-là, ou là. Alors des fois, ce n'est pas une pièce, c'est juste une armoire. Autant c'est peut-être la pièce qui intéresse Jésus. Est-ce que cette pièce limite votre espace de vie? Et Dieu veut vous donner un grand espace de vie. Et là, vous avez compris, je ne parle pas que d'une maison physique. Notre être intérieur. Y a-t-il des domaines secrets? Y a-t-il des domaines que je ne veux pas montrer, que je ne veux pas ouvrir? Y a-t-il des domaines où je dis ça, j'y touche pas. Puis souvent, on va mettre une étiquette. C'est mon caractère ou n'y touche pas. Défense d'entrée. Domaine privé, secret, dans lequel je peux, quand j'y vais seul parce que je fais des choses. Voilà, moi je dis que ça me fait du bien, mais en fait, je sais au fond de mon cœur que c'est pas juste. Et ça, c'est peut-être des choses très concrètes dans notre vie. Je suis pas là pour vous accuser. Mais parfois, ça peut être beaucoup plus subtil. Oh là, parler de l'amour de Dieu. Je veux bien en parler, mais est-ce que vraiment j'accepte cet amour de Dieu? Le pardon, tiens, on peut vite avoir une pièce où on met quelques dossiers là. Dossiers non pardonnés, on les met dans une pièce, on ferme à clé, on croit que c'est bon. Non, le jugement envers autrui. Celui-là est de mauvais côté. Alors je suis censé l'aimer parce que Dieu me demande d'aimer mes ennemis et d'aimer ceux qui sont de l'autre côté. Je suis censé capable de voir qu'il n'est pas que noir. Je suis censé capable de discerner les couleurs, d'amener de la lumière chez lui. Mais franchement, j'ai fait un dossier et lui aussi, je le juge. Jugement d'autrui. Et je peux avoir plein de pièces comme ça. Et moi, je vous invite simplement à dire, Seigneur, j'ai pas la force d'ouvrir le placard. Des fois, j'en ai même pas envie parce que, au final, j'ai peur de ce que j'ai, de l'araignée qui s'y est installée. J'ai peur de ce que je pourrais trouver en ouvrant. J'ai peur que ça sente trop mauvais, qu'il y ait des choses qui ont pourri à l'intérieur de cette pièce-là. Donc, raison de plus pour pas l'ouvrir. Est-ce que j'ai suffisamment confiance en Dieu? Un Dieu qui m'aime pleinement et qui veut prendre possession de toute la maison. Pour lui dire ce matin, Seigneur, viens, entre dans la maison. mais entre dans toutes les portes, entre dans toutes les pièces. Ne franchis pas juste la porte d'entrée et je suis sauvé, c'est bien comme ça. Mais entre dans tous les domaines de ma vie, pour que tous les domaines de ma vie puissent bénéficier de ta grâce, afin que dans ma vie personnelle, je puisse avoir le maximum d'espace de vie. Seigneur, tu as promis la vie abondante. Et je prie que ce matin, que tout ce qui vient comme empêcher cette vie abondante de se répandre dans mon être, que ce soit pour des questions de non-pardon, que ce soit pour des questions d'impureté, que ce soit pour des questions de difficulté à accepter ton amour. Parce que j'ai tellement été blessé ou je ne sais quoi. Seigneur, toi seul as le droit d'être le maître de la maison. Je réalise que je suis qu'un locataire sur cette terre. Je ne m'appartiens pas. Ma maison ne m'appartient pas. Mon être ne m'appartient pas. Parce que par ta grâce, et uniquement par ta grâce, je choisis que tu prennes possession de tout. Seigneur, prends possession de tout, pas seulement de mon esprit, pas seulement de mon âme, mais de mon corps aussi. J'ai besoin de ta grâce, Père. J'ai besoin de ta grâce. Bonne nouvelle. Vous savez, le Saint-Esprit vient habiter en nous, dans la maison. Il vient cohabiter avec nous. Puis en plus, c'est lui qui est le propriétaire. Donc, si vous avez des problèmes de loyer, c'est avec lui qu'il faut gérer les choses. Et vous savez quoi? Dieu vous a donné ce corps gratuitement. Le loyer est gratuit. Raison de plus pour dire, viens dans toutes les pièces. Parce que si tu es un propriétaire qui est capable de me créer gratuitement, uniquement par amour, tu es celui qui est capable de prendre soin de moi, de ma psychologie, de mon esprit, de mon âme, de mon corps, par amour. Et j'accepte cela. Seigneur, sois béni. Amen.